Europe 1,
11h midi 30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission consacrée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Mélanie, quel est notre programme?
Eh bien Julia, pour bien démarrer la semaine, on va commencer en se creusant la tête avec cette question. Peut-on vraiment chasser le plastique de notre quotidien? Car ça ne vous a pas échappé, il est partout et il représente un danger sous toutes ses formes que l'on peut inhaler ou même manger. Alors on va vous aider à les traquer ce matin, les particules de microplastique, que ce soit dans votre assiette, dans les vêtements que vous portez ou même dans les jouets de vos enfants. Une émission en partenariat avec les équipes du magazine 60 millions de consommateurs.
Ensuite, à 11h35, on passera à notre dossier santé du jour dans lequel on a décidé d'être vraiment utile pour tous ceux qui ont des enfants à la maison. On va parler de ces urgences, de ces petits et gros bobos qui peuvent les toucher parfois. Un bon vieux 42 fièvre, des douleurs au ventre ou encore des petits boutons bizarres partout. Pas de panique avec notre invité alias Toubib, c'est son pseudo, il est médecin dans un service d'urgence pédiatrique et on va apprendre comment réagir dans toutes les situations.
Et au passage, je vous le rappelle, si vous avez des questions sur les petits boutons bizarres ou sur d'autres sujets de l'émission, n'hésitez pas sur le 3921, le répondeur d'Europe 1 ou encore sur le compte Instagram de l'émission.
Ensuite, dès midi comme tous les jours, on retrouvera notre trio de chroniqueurs tendance. D'abord Marion Sauveur pour la chronique gastronomie. Elle arrive les bras chargés de coquilles Saint-Jacques parce que c'est de saison et on va faire twister la coquille ce midi avec des astuces que vous pourrez reproduire bien sûr chez vous.
Et puis Julia, autour de notre table des tendances, il y aura aussi Elsa Lévy qui va nous faire découvrir la mode du co-living. En gros, c'est comme une colocation améliorée sur son lieu de travail. Et enfin, on terminera avec la chronique de Sophie Braffman qui va nous parler de ces jeunes marques de vêtements très engagées.
Europe 1.
Bien fait pour vous, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et donc Julia, ce matin, on va s'intéresser à un sujet important puisqu'on est submergé par cette matière dans toute notre vie. Peut-on vraiment chasser le plastique de notre quotidien?
Et oui Mélanie, parce qu'il est vraiment partout hein, actuellement autour de nous, peut-être même dans le chemisier que vous portez.
Non, c'est du coton je crois,
ouais,
ça va.
Ouais. Dans l'emballage de la salade que vous prévoyez de manger ce midi ou encore dans le shampoing avec lequel vous vous êtes lavé les cheveux ce matin. Alors on va apprendre à le traquer dans un instant, mais avant ça on va donner la parole à notre traqueur de bonne humeur et
il
de témoignage.
Il est partout aussi.
Il est partout, Clément Lamy.
Bonjour. Effectivement, bonjour, la question m'intéressait vraiment aujourd'hui. On va parler recyclage, on va parler écologie, on va bien sûr parler du plastique. Comment diminuer le plastique autour de nous? Je suis parti avec un micro.
J'ai fait en plastique,
évidemment.
Oui, j'en suis sûr.
Dans toutes les rues de France. Et encore une fois, les meilleures réponses venaient de la bouche des enfants.
Déjà, on peut acheter des trucs dans des boîtes en carton. Mais sauf que le problème, c'est que le carton, on doit d'abord couper les arbres pour en faire. Et du coup, c'est important de les replanter.
Bah déjà, il faudrait que chacun en fasse un petit peu. Comme utiliser une gourde au lieu qu'une bouteille en plastique.
Ma maman est écolo, elle m'achète que des jouets en bois. Comme ça, ça fait moins de plastique.
Ça, c'est
mais
pas
oui,
mal.
La vérité
ça,
sort de la bouche des enfants.
Oui, mais
c'est
après,
vrai.
Ils grandissent, il n'y a pas de PlayStation en plastique, en bois en tout cas, il n'y en a pas directement. Ça, c'est une belle initiative. Donc, j'ai demandé encore une fois à tout le monde, quel est votre petit geste écolo au quotidien, plastique ou pas? J'ai demandé d'abord aux enfants.
On va à l'école en vélo, comme ça on n'abîme pas la planète. J'éteins les lumières quand ils sont allumés.
Je prends des douches vite, j'essaye de gaspiller le moins possible au self.
Ça, ce sont pas mes enfants, hein. C'est non, bien parce qu'éteindre la lumière, moi ils n'ont pas compris encore.
C'est pas Versailles, si vous
non,
faites cette phrase
tous les
de maman
jours,
ou pas,
mais c'est pas possible.
Voilà, ouais. Sauf ceux qui habitent vraiment à Versailles qui ne peuvent pas dire cette phrase, on pense évidemment à eux. Et puis j'ai également interrogé, même question, les adultes. Petit geste écolo au quotidien.
Alors nous on fait nos courses dans des magasins zéro déchet. On vient avec nos boîtes, nos tupperwares, et comme ça, ça évite d'utiliser du plastique. Moi je suis enseignante et dans mon établissement, on a pris la décision de ne plus utiliser des feutres. On utilise des stylos Woody, c'est des stylos qui vont sur toutes les surfaces et qui tiennent beaucoup plus longtemps et qui ne sont pas faits en plastique.
Alors mon petit geste écolo quotidien, c'est faire pipi dans la douche. Voilà, comme ça au moins, je n'ai pas besoin d'utiliser la chasse d'eau.
Je suis désolé, je l'ai mis quand même. Je l'ai mis quand même parce que beaucoup de personnes m'ont répondu ça. Ben moi non plus, ouais. Mais j'ai eu beaucoup cette réponse. Effectivement, je me suis renseigné, c'est entre 9 et 11 litres une chasse d'eau. Ah ouais. Donc effectivement, ça fait partie des petits gestes au quotidien. Il y en a même qui se sacrifient.
Ouais.
J'ai trouvé un grand sportif qui s'est sacrifié pour la planète, écoutez.
Moi, j'ai décidé d'arrêter le sport parce que quand je fais du sport, je rejette énormément de CO2 parce que je respire très, très fort. Et du coup, c'est vraiment pour qu'il y ait moins de CO2 sur la planète.
Moi aussi, je suis écolo dans ce sens. Voilà, ouais.
On embrasse tous les non-sportifs. Puis je voudrais vous quitter avec une petite déclaration d'amour. En tout cas, parfois, il y a une personne qui m'a dit parfois, c'est pas le plus beau légume avec du plastique autour. Elle a fait un choix et c'est payant.
Quand je vais faire mes courses, je choisis les fruits et les légumes qui ne sont pas forcément les plus beaux. Donc, c'est comme mon mari, hein, je n'ai pas choisi le plus beau, mais il est quand même pas mal. Et à la limite, pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour les fruits et les légumes?
Pourquoi pas? J'espère que vous nous donnerez des vraies réponses dans un instant.
Elle a le sens du compliment, en tout cas, cette dame.
Exactement.
Merci beaucoup Clément Lannou. On vous retrouvera bien sûr demain avec de nouveaux témoignages à votre micro, des témoignages qui nous font sourire, mais qui sont souvent très justes. Vous êtes notre super starter tous les jours, on vous remercie. Merci. Allez, tout de suite, on va creuser notre thème du jour, débuter cette traque au microplastique avec nos deux invités. Elles sont toutes les deux chefs de rubrique au magazine 60 millions de consommateurs, qui est notre partenaire aujourd'hui pour cette émission. Adélaïde Robert et Patricia Chéropoulos, bonjour.
Bonjour.
Alors, le plastique est partout autour de nous, on le sait, mais il est aussi dans les océans, avec ce qu'on appelle désormais le 7e continent. Il ressemble à quoi ce dernier, Adélaïde, ou enfin, celle qui veut commencer peut-être?
C'est une zone qui fait 6 fois la France, a priori, dans le Pacifique Nord. Et en fait, ça ne se voit pas forcément de loin. Mais c'est un genre de grosse soupe de plastique. En fait, quand on se rapproche, on voit qu'il y a une myriade de tout petits fragments, l'essentiel étant de moins de 5 mm. Et en fait, il y en a de la superficie jusqu'à 30 mètres de profondeur.
Pour des choses qui font 5 mm, mais qui du coup, agglomérées les unes avec les autres, représentent finalement un continent quasiment.
C'est ça. Alors quand même, est-ce qu'on peut se le dire, il y a du mieux quand même dans notre utilisation du plastique en 2021. On est sur la bonne voie, même si nous, citoyens, nos actions ne sont que des petites gouttes d'eau dans l'océan. Est-ce qu'on vraiment vous confirmez qu'on a fait des efforts?
Patricia?
Oui, ça va mieux, c'est vrai. Enfin, on est encore loin du but. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a des petites actions. Il y a aussi des décrets qui paraissent et justement qui vont aussi limiter justement la fabrication des objets en plastique.
En fait, il y a un décret effectivement qui est paru. Il y a la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, et avec un décret 3R. Donc, 3R, c'est pour réduire, réutiliser et recycler le plastique.
Ça devrait être notre mantra tous les jours, finalement, les 3 R. Donc, recycler,
réutiliser et réduire. Mmh. En fait, l'essentiel, ça va être de réduire la production de plastique. Mmh. Donc, de limiter le plus possible les objets qu'on va créer en plastique. Et puis ceux pour lesquels on peut difficilement se passer de plastique, essayer de les faire durer le plus longtemps possible en fait.
Patricia, alors aujourd'hui on va surtout s'intéresser aux microplastiques dans cette émission que l'on peut inhaler ou ingérer tous les jours chez nous. De quoi parle-t-on concrètement quand on parle de microplastiques?
Donc ça, c'est des particules de moins de 5 mm et c'est vrai qu'elles sont partout, c'est ça le problème, c'est dans l'air. Donc
dans ce studio probablement,
surtout qu'il y a quand même pas mal d'objets en plastique. Ouais, c'est ça. Bon, et puis aussi dans l'alimentation, donc c'est vrai qu'on est, on est continuellement confrontés à ces microplastiques qui vont évidemment entrer aussi dans notre organisme.
Et oui, et c'est bien là le problème, on en reparlera avec vous tout à l'heure. Vous restez avec nous toutes les deux, on va passer au concret, à cette traque que l'on devrait tous mener au quotidien pour protéger l'environnement mais aussi notre propre santé. On va vous aider sur Europe 1 par exemple à faire le tri chez vous pour éliminer dans votre cuisine, dans votre salle de bain ou même dans la chambre de vos enfants ces plastiques parfois microscopiques qui risquent de nous polluer de l'intérieur.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème, oui c'est mauvais pour les balais.
Ça fait quand même des années que Elmer Footbeat chantait le problème avec le plastique. Et bien voilà, vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, dans lequel on fait chaque matin toute notre possible pour vous rendre la vie plus agréable et aussi une santé plus sûre également. Et notre question ce lundi va complètement dans ce sens, Mélanie, puisque la voici, la voilà. Peut-on vraiment chasser le plastique et surtout les microplastiques de notre quotidien? On en parle avec Patricia Chéropoulos et Adélaïde Robert du magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire pour cette émission aujourd'hui.
Alors Patricia Chéropoulos, le microplastique, il est partout, on l'a dit tout à l'heure, on a vu même qu'il était dans les océans et même autour de nous, chez nous, dans les objets qui nous entourent, on va dire. Mais comment il se dégrade pour faire ces mini-particules, ces micro-particules qu'on va finalement inhaler, ingérer, et on les trouve dans quels objets en fait?
Alors, dans tous les objets en plastique, donc en fait, il y a deux voies d'exposition. C'est d'abord la dégradation de ces objets, donc sous l'effet du soleil, de la température, des frictions mécaniques, donc ça va se fragmenter. Donc,
si déjà, je mets du chauffage très fort chez moi, ça va peut-être plus dégrader, c'est ça, quand il fait très chaud?
Oui, mais c'est aussi dans l'environnement. Mmh. C'est par exemple lorsque vous jetez aussi après ces objets qui vont terminer tout, bah, voilà, dans l'environnement, et après sous l'effet du soleil, par exemple, ça va se fragmenter, ça va se retrouver dans l'air, après qui peut revenir chez vous. Enfin, bien sûr. Un raccourci, mais... Et l'autre voit aussi, c'est l'usure en fait lors de l'utilisation de ces objets. C'est typiquement les pneus par exemple, les freins, les terrains de foot synthétiques qui vont s'user, et puis également le lavage. Tous les vêtements synthétiques, et tout le monde en a, un lavage va polluer, va justement dégager, rejeter beaucoup de microfibres synthétiques.
Mmh. Alors vous parliez tout à l'heure de la nourriture, et je sais que par exemple qu'on peut trouver du plastique dans le riz, dans le thé ou même dans la bière, mais ça, comment c'est possible, Patricia?
C'est possible parce que justement ces microplastiques, comme on le disait, sont présents dans l'environnement et dans les eaux, donc les eaux d'irrigation. Donc forcément, bon, ils vont être ensuite puisés par les racines, mais pas seulement, parce que l'agriculture est une grande utilisatrice de plastique. Ça peut être les bâches, ça peut être lors du transport, aussi dans les engrais, dans les bouts d'épandage. Enfin, il y a énormément de voies d'exposition qui vont finalement toucher donc tout ce qui est fruits et légumes, le riz, le thé. Et le thé, d'ailleurs, c'est en plus ces petits sachets de mousseline, vous savez, les petits sachets plastiques, pour l'instant, qui ne sont pas interdits, le seront, je crois, l'an prochain.
Il faut arrêter tout ça.
Oui, parce que quand vous les trempez dans l'eau chaude, on l'a dit, la température, ça va aussi dégrader. Et forcément, vous avez un peu...
D'où l'intérêt d'acheter peut-être des théières sans ces sachets plastiques. On met le thé en vrac,
évidemment.
C'est beaucoup mieux.
C'est pour le thé et pour le reste, d'ailleurs.
Adélaïde Robert, si on regardait vraiment au microscope dans nos organismes, a priori, tout ce qu'elle vient de nous décrire, Patricia, ça fait très très peur quand même, mais on retrouverait des traces de microplastiques chez tout le monde, là, autour de la table, par exemple?
Probablement. Il y a eu des études qui ont été faites sur des banques de tissus, et ils en ont retrouvé dans les poumons, dans les reins, dans le rat,
les bandes de tissu humain,
bien sûr. Alors, dans les animaux, on savait depuis longtemps qu'il y en avait. C'est un peu plus récent. Voilà, on sait qu'il y en a. Il y en a même dans le placenta.
Ah oui.
Oh là là. Donc oui, il est voilà.
Et alors, justement, le risque sur la santé à court terme et à long terme aussi?
Alors, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, le risque des microplastiques sur la santé, il n'est pas si connu. En fait, tout le monde part du principe qu'effectivement, c'est à risque parce que c'est presque une évidence. Mais il y a certains polymères, par exemple, on sait que quand ils se dégradent, ils deviennent des monomères qui sont cancérigènes. C'est le cas du polystyrène avec le styrène.
C'est pour ça qu'on a enlevé les bisphénols aussi, des biberons, voilà, par exemple, et d'autres contenants alimentaires.
Effectivement, ce sont des additifs, comme donc, les phtalates, le bisphénol A, qui sont ajoutés en fait, avec les plastiques, et qui, effectivement, ont des effets, pour le coup, qui sont connus sur la santé. Mm-hmm. Le problème des microplastiques, c'est aussi qu'il y a plein de choses qui viennent s'agglomérer avec eux. En fait. Il y a des micro-organismes, en fait, qui peuvent être pathogènes, qui peuvent du coup se balader avec les microplastiques absolument partout sur la planète. Ça peut être un véhicule, en fait. Donc, les microplastiques vont véhiculer un certain nombre de... même des pesticides ou des métaux lourds.
Non seulement ils sont mauvais en eux-mêmes, a priori, pour notre santé, mais en plus, ils peuvent s'agglomérer à d'autres substances toxiques.
Voilà, ils vont véhiculer tout un tas d'autres choses qui sont toxiques pour la santé. Donc, effectivement, il faut essayer d'éviter d'en avoir un petit peu partout autour de nous.
Alors, quand même, si on regarde dans notre quotidien, il y a eu des changements. Les couverts en plastique, par exemple, ont été remplacés par d'autres, soi-disant, biodégradables. Est-ce qu'ils le sont vraiment ?
Adélaïde, Patricia, vas-y.
Oui, allez. Alors en fait, oui, c'est un petit peu ambigu au sens que les fabricants, effectivement, indiquent maintenant plutôt qu'ils sont réutilisables. Mm-hmm. Mais en fait, des couverts en plastique, ce n'est pas... Bon, voilà, ils ne sont pas très solides, donc vous les mettez au lave-vaisselle ou vous allez laver, ils vont très vite se casser, donc ils vont devenir aussi des déchets plastiques. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier globalement. Par exemple, si on peut éviter les couverts plastiques...
Tout court,
voilà, tout court,
c'est mieux. Bien. Nous, les Français, est-ce qu'on est bon en recyclage, par rapport à nos voisins, Adélaïde?
Non, on est assez mauvais. Sur le recyclage du plastique, on n'est pas très bon. On est à 29%, je crois, quand nos voisins européens sont plutôt autour de 40%. Donc on a du travail à faire. Ouais,
on a dit qu'on serait dans cette émission toujours très concret. Donc on aimerait savoir justement les gestes simples qui peuvent nous protéger des microplastiques, comme aérer et aspirer. Non mais franchement, c'est si simple que ça? Faut ouvrir les fenêtres et passer l'aspirateur?
C'est bon pour le Covid aussi.
Surtout chez des gens qui ont par exemple des sols en PVC, ce sera vraiment important d'aérer et d'aspirer. Ça permet quand même de limiter l'exposition.
Ça va aspirer les particules de microplastiques qu'on ne voit pas, c'est ça, mais dans l'aspirateur.
C'est pas visible, clairement.
C'est ça, complètement. Et aérer sa voiture aussi, je crois que c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure, Patricia, des pneus, mais une voiture, à l'intérieur, c'est quasiment que du plastique.
En gros, je crois que c'est à peu près 40% de l'équipement qui qui est en plastique. Donc forcément, là aussi, il faut sans arrêt aérer aussi sa voiture, parce qu'on y reste à un habitacle qui est très... très, très, très petit. Donc,
c'est vrai qu'on pense à aérer chez nous, mais pas forcément la voiture. Donc ouvrir les fenêtres régulièrement,
voilà, c'est hyper important, évidemment.
C'est l'intérieur de la voiture, l'air intérieur est 15 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc on a toujours intérêt.
On se pollue plus dans sa voiture qu'à l'extérieur de la voiture sur la route. Ah oui,
c'est dingue. Il faut avoir les vitres ouvertes, même en roulant en permanence. On va reparler de l'alimentation, parce que ça, évidemment, ça nous intéresse tous. On arrête tout ce qui est les plats tout prêts avec le plastique autour. J'imagine que ça, Patricia, c'est l'enfer, non ?
Ah oui, oui. Enfin, si on peut éviter, ce qui est parfois difficile, tous les plats préparés dans les barquettes plastiques, évidemment.
Avec le micro-ondes.
Voilà, et qui plus est, en général, on les chauffe au micro-ondes. Or, au micro-ondes, là encore, ça risque de dégrader le plastique avec donc des microfibres de plastique et également des additifs qui sont utilisés pour fabriquer ce plastique qui vont migrer dans la nourriture. Donc évidemment, ce qu'on fait, l'idéal, c'est de transvaser le contenu dans un plat en pyrex, par exemple.
Bien sûr,
ou en verre, parce qu'on veut pas du plastique si on doit le chauffer surtout.
Surtout si on va là, à la limite qu'on le garde au réfrigérateur, pourquoi pas, mais surtout au chauffage, toujours éviter le plastique.
Et Adélaïde, puisqu'on parle des emballages plastiques dans notre alimentation, dans ces produits notamment tout prêts, qui sont pratiques parfois quand on doit déjeuner sur son lieu de travail ou autre. Voilà, exactement. Il y a des emballages qu'il faut particulièrement éviter. Ce sont les barquettes qui sont noires. Pourquoi ?
En fait, elles sont mises au rebut. En fait, dans les centres de tri, il y a des systèmes optiques de reconnaissance qui permettent de trier. Et en fait, elles sont, parce qu'elles sont noires et qu'il y a cet additif, ce colorant, en fait, elles sont pas considérées comme du plastique. Donc, elles sont pas recyclées.
Donc, c'est vraiment les pires des pires, on va dire. Si on doit choisir,
c'est dommage,
en tout cas, pas noir.
Autant...
On fuit. Alors, du côté de nos cosmétiques, parce que c'est important également, certains contiennent encore des microbilles de plastique. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux consommateurs pour les repérer ? Comment on peut voir ça, justement, dans les ingrédients ? Oui, dites-moi, Adélaïde.
Alors, en fait, la difficulté, c'est comme pour les produits ménagers. Enfin, c'est plus facile avec les cosmétiques parce qu'on a la liste des ingrédients, mais en fait, ce sont quand même des noms assez compliqués. Et il y a souvent, par exemple, des gens qui vont dire « regarde les polys quelque chose ». Oui, mais sauf qu'ils sont pas tous les polys quelque chose ne vont pas être forcément des microplastiques qui posent problème pour l'environnement. Donc, en fait, le mieux, c'est de réglementer. Donc, effectivement, les microbilles de plastique vont être... il y en a déjà une bonne part qui ont été interdits dans tout ce qui est produit de gommage rincé. Et en 2026, tous les cosmétiques rincés devront être exempts de toute microbille de plastique.
Mais si je prends que des cosmétiques bio, j'évite le plastique ou c'est pas certain ?
C'est mieux. Après, il y a certains cosmétiques bio qui vont se retrouver quand même dans des emballages en plastique. Donc le mieux, alors d'ailleurs, l'industrie cosmétique a pris quand même un peu les choses en main. Ils se sont posé des objectifs pour limiter le plastique ou renforcer l'utilisation de plastique recyclé. Mais voilà, il y a encore pas mal de travail, et notamment sur certains produits comme les rouges à lèvres, les vernis. Ils disent qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à éliminer les microplastiques. Il faudrait idéalement s'y mettre. Mais effectivement, ça leur pose des problèmes de formulation qui ont l'air très compliqués.
Est-ce que Patricia, la brosse à dents en bambou, par exemple, parce que la brosse à dents, ou Adélaïde, celle qui veut répondre, la brosse à dents en bambou, a priori, il n'y a pas de plastique. Donc ça va.
Alors, il n'y a pas de plastique, effectivement, c'est mieux, il n'y a pas de plastique.
C'est pas très agréable en bouche, malheureusement.
La question, en fait, c'est à chaque fois, il faut toujours voir un petit peu la globalité. C'est-à-dire que le but, c'est de protéger l'environnement, donc ça ne va pas être que de voir les choses sous l'angle du plastique. Donc, oui, on se passe de plastique avec la brosse à dents en bambou. En revanche, on va faire venir une brosse à dents en bambou de Chine, et ça ne va pas avoir forcément un super bilan carbone. En plus, la brosse à dents en bambou, si la tête est fixée aux manches, les poils sont en nylon et ne se recyclent pas. Donc la brosse à dents en bambou, on ne pourra pas la mettre au compost, ce ne sera pas biodégradable.
Bon, arrêtons de nous brosser les dents.
Donc c'est mieux, voilà. En fait, il faut... Tout est un peu une question d'équilibre.
Une dernière question, très rapidement, pour les vêtements de sport, par exemple, souvent synthétiques, qu'est-ce que vous conseillez pour les entretenir, les laver et surtout limiter les risques ? Oui, Patricia.
Oui, c'est le lavage. Alors, si on peut éviter, évidemment, d'acheter trop de vêtements avec des fibres synthétiques, c'est mieux. Sinon, c'est surtout au niveau du lavage que l'on peut faire attention. C'est déjà ne les laver que lorsqu'ils sont sales, limiter à 30 degrés, parce que plus on lave à haute température, là encore, ça va dégrader le tissu. Utiliser aussi une machine avec le tambour plein. Parce que ça évitera justement les frictions avec le tambour.
Ah oui, on n'a pas juste le soutien-gorge de sport.
On essaie de faire une machine pleine à chaque fois. Et puis, idéalement aussi, alors les filtres dans les machines à laver, ce n'est pas pour tout de suite. C'est à partir de 2025 qu'ils pourront justement capter les microfibres. En attendant, on peut mettre des sacs. Il y a certains sacs qui sont justement
des sacs de lavage.
Voilà, au moins. Et évidemment, après, on ne va pas les revider dans la poubelle. L'idéal, c'est de les mettre après dans les poubelles pour textiles. les points de collecte.
Très bien. Patricia Adélaïde, vous restez avec nous. On a encore quelques questions pour mener à bien cette traque au microplastique déjà chez nous. Et nos auditeurs ont également des questions pour vous. Je le rappelle, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore au 3921, notre répondeur.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question ce matin est la suivante. Peut-on vraiment chasser le plastique et surtout les microplastiques de notre vie? Une émission en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs, dont nous avons deux représentantes en studio avec nous ce matin. Patricia Chéropoulos et Adélaïde Robert. Alors on a déjà regardé dans nos cuisines, on va dire, dans nos placards pour traquer ces plastiques qui peuvent se dégrader dans nos intérieurs et finir donc dans nos poumons mais aussi dans l'environnement évidemment. On va continuer avec peut-être la chambre de nos enfants. Alors là, je crois malheureusement, Patricia, non, on va dire plutôt Adélaïde pour les jouets, que malheureusement, c'est le paradis du plastique.
Hein. Oui, 90% des jouets seraient en plastique.
Oui, bah le reste, c'est quoi? C'est en bois, c'est ça?
Alors, il y a des jouets en bois, il y a des jouets en carton, il y a des jouets en tissu. On peut tout à fait faire autre chose que d'acheter des jouets en plastique.
En plastique, il y a d'autres solutions, mais la grande majorité est encore en plastique. Alors d'ailleurs, ce qu'il faut vraiment éviter pour nos enfants, c'est les jouets en plastique tout neufs. Donc on fait quoi? On achète plutôt de la seconde main? C'est déjà moins pire, entre guillemets?
C'est moins pire. C'est sûr que ce qu'il faut éviter, c'est les petits jouets de kermesse qui vont avoir une durée de vie de 10 secondes 30 parce qu'ils vont se casser ou de toute façon, on va les jeter. Si on va sur des Lego, des Playmobil qui vont sur trois générations, c'est au moins son cycle de vie ça vaut la peine. Voilà, ça a plus de sens. Mais idéalement, il faut surtout commencer à prendre le pli de.
Donc ça, c'est dans nos achats. Mais alors aujourd'hui, il y en a déjà plein dans la chambre. On va pas tout jeter à la poubelle.
Voilà. Il faut revendre. Voilà. Il faut acheter en seconde main. Il faut essayer de réparer. Il y a des cliniques maintenant qui réparent des poupées. Il y a des voilà. Et puis les constructeurs, eux, commencent aussi. Enfin, les fabricants commencent à faire des jouets en plastique recyclé. Il y a des Barbie maintenant en plastique recyclé. Enfin, voilà, ça commence à venir.
Il y a des certaines marques qui s'y mettent effectivement d'utiliser ces plastiques.
Ouais. Et puis il y en a qui récupèrent les jouets pour les recycler.
Il y a même des plastiques d'origine végétale, ça va. Je crois que vous avez cité Barbie, mais il y a d'autres marques qui font ça. Après, c'est des bonnes alternatives.
Ça reste du plastique, mais c'est mieux que. Encore une fois, c'est moins pire peut-être que.
Ou sinon, pas de jouets du tout, et puis moins c'est réglé.
Bah, oui, évidemment.
Il y a Marina sur la page Facebook d'Europe 1 qui nous demande si les jouets de bain en plastique, c'est pas encore plus dangereux pour son bébé. Une fois mouillé, dit-elle, s'il le faut, son bébé s'empoisonne dans un mini bain de plastique. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Je ne sais pas si c'est pire que de mâchouiller du plastique. C'est sûr que quand on regarde les jouets de bain, est-ce que ça recrache? De toute façon, il vaut mieux pas en acheter. Ça évite d'avoir à le jeter après.
Évidemment. C'est un sage conseil. Il y a également Nicolas sur notre compte Instagram qui s'interroge pour sa petite fille de 5 ans qui ne jure que par les paillettes, les stylos à paillettes et même les t-shirts à paillettes.
Les t-shirts à paillettes.
On adore Patricia.
Ça,
qu'est-ce qu'on fait? On jette ou pas?
Maintenant qu'on les a, non. Justement, l'idée, c'est de les garder au maximum pour éviter. Bon, à un moment, évidemment, ils seront pas jetés, mais déposés donc, dans un point de collecte. Ils pourront être ensuite, effectivement, peut-être recyclés ou en seconde main. Et puis après, si on peut éviter d'en acheter, effectivement, parce que c'est typiquement des tas de petites choses en plastique. Et puis dans la machine à laver, ben là, ça part très facilement et ça se dégrade aussi très facilement.
Bon, les vêtements, grosso modo, il faut quand même éviter tout ce qui est synthétique le maximum. Maintenant, les faire rentrer chez nous, on en a, on va les garder jusqu'à la fin, on va dire.
Les petites broderies, enfin toutes ces petites choses.
Et je crois qu'il ne faut pas repasser les vêtements synthétiques.
Oui, là encore, il faut éviter la chaleur. Donc on évite de repasser, on fait sécher à l'air libre. Oui, tout à fait.
On va parler d'un sujet qui fâche, la déco pour Noël, par exemple. Là aussi, il y a des paillettes partout. Mais normalement, les guirlandes, ça dure plusieurs années. On a le droit de continuer sa déco de Noël à l'ancienne
avec les guirlandes en plastique.
Ouais. Faut pas jeter vos guirlandes en plastique, celles que vous avez déjà achetées. En revanche,
moi, je les ai depuis 10 ans, ça va.
Oui. Ouais. C'est pas mal. Il y a tellement belles choses à faire avec des guirlandes peintes en plastique. Il y a des décos en bois. Enfin, voilà.
D'accord. Des guirlandes en bois, vous voulez dire?
Non, pas en bois. C'est pas en bois. Non, c'est pas objet de décoration en bois. Il y a des guirlandes en papier. Et puis voilà, on peut réinventer un peu la déco de son sapin.
Et donc le sapin de Noël, lui non plus, pas en plastique. Même si on le garde depuis 10 ans, vaut mieux avoir un vrai sapin. Quoi.
Au niveau bilan carbone, il faut voir. Mais effectivement, il faut le garder au moins 10 ans, je crois, pour que ça commence à être intéressant.
D'accord. Et vous, Mélanie, vos enfants, vous leur donnez des jouets en plastique ou en bois?
C'était l'anniversaire de ma fille hier. Et je dois avouer que les cadeaux étaient majoritairement en plastique, effectivement. Sinon, il y a les livres aussi. C'est pas mal pour offrir des livres, finalement. Il y a moins de plastique. Merci beaucoup Patricia Chéropoulos. Merci à vous également Adélaïde Robert d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et donc je rappelle que le dernier numéro de magazine 60 millions de consommateurs consacré notamment à ce sujet est déjà disponible. Merci.
Oui, merci mesdames. Et à présent Mélanie, on va virer de bord et passer à tout autre chose. Un sujet qui va intéresser tous ceux qui ont des enfants à la maison tout de suite. C'est notre dossier santé du jour.
11h30 sur Europe 1.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On vient de finir avec les jouets en plastique, on va passer à d'autres joyeuses choses avec vous. Bonjour Toubib.
Bonjour.
Alors Toubib, c'est votre nom de plume, hein. Vous êtes médecin et travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier français. Vous êtes aussi l'auteur de la page Facebook Toubi or not Toubib et du livre Urgence or not Urgence aux éditions First. Alors...
Et oui Mélanie, et ce livre, on peut le dire, hein, c'est presque un manuel de survie pour parents qui aimeraient éviter de finir aux urgences justement pour rien. Et justement, on va commencer par un truc qui va arriver forcément à tous les parents un jour. Mon enfant a de la fièvre. C'est quoi de la fièvre, concrètement ?
Bah, de la fièvre, déjà, c'est quand la température corporelle, en fait, elle monte au-dessus de 38. Mmh. Après, on peut tergiverser un peu et dire qu'entre 37,8 et 38, c'est un fébricule, donc une petite fièvre. Mais en général, ça part de 38. Et les enfants supportent moins bien... on va dire de façon empirique, hein, de façon observationnelle, à partir de 38,5.
Mmh. Et vous avez déjà des parents qui viennent aux urgences pour un 37,8, ça arrive, ça on évite effectivement, parce que cela dit, il y a fièvre et fièvre, à 37,8 il y a des enfants qui ne vont pas bien la supporter, et puis il y a des enfants à 39 qui pètent presque la forme, hein, franchement.
Vous voulez dire qu'il y a la bonne fièvre et la mauvaise
c'est
fièvre,
ça. Moi, j'ai...
en effet.
Les miens sont très résistants à la fièvre, ça ne les achève pas tout de suite. Hein.
Justement, c'est une des conditions, je pense, les plus importantes pour les parents à savoir, c'est que si l'enfant il supporte bien la fièvre, comme vous disiez...
Moi, 38,5, quand ça continue à sauter partout, je ne donne même pas de paracétamol.
Voilà,
hein,
exactement.
Ah ouais, non, vraiment.
Exactement. Et alors que moi, j'étais... que la fièvre elle est bien tolérée, il n'y a aucun problème.
Alors que moi, j'étais de la team 37,9. Au secours, il faut tout de suite donner du paracétamol, Doliprane. Ouais. Donc, ce n'est pas le cas, hein, docteur.
Donc, à 37,9, on donne du Doliprane et à 38, on court aux urgences.
Bah, moi, j'étais cette team-là. Mais bon, c'était il y a 15 ans, quand mon fils était petit. Et j'espère que si j'en avais eu un deuxième, j'aurais été moins flippée. Mais c'est sûrement Mélanie qui a raison, effectivement. Il faut raison garder.
Oui, ils souffrent. Ils apprennent à souffrir. D'ailleurs, dans votre bouquin, vous dites que nous, parents, on fait souvent une fixette hein, sur le thermomètre. Mais en fait, en cas de fièvre, c'est vraiment surtout, il faut le regarder, l'enfant. C'est ça. C'est pas le thermomètre, on s'en fiche presque quelque part.
Ben oui, le thermomètre, il parle pas, il gigote pas. Ou bien vous avez pris des choses bizarres avant de le regarder. Mais l'enfant, c'est hyper important de voir son comportement. En fait, on appelle ça la tolérance à la fièvre. Mmh. Donc, alors, je dis pas que votre enfant, il va être en pleine forme, qu'il va sauter partout. Hein, faut pas se leurrer. Par contre, c'est sûr que il faut éviter aussi qu'il soit totalement amorphe au fond de son lit, qu'il ne réponde pratiquement plus quand vous demandez d'interagir avec lui ou quand vous voyez que voilà, il devient pâle, qu'il a les lèvres bleues et qu'il a des problèmes respiratoires. C'est vraiment les trois choses qui permettent d'apprécier la tolérance de la fièvre. On appelle ça le CCR, comportement, coloration, respiration.
Comportement,
coloration, respiration.
D'accord. Et là, effectivement, si le petit a 40 depuis une heure, on peut débarquer en trombe aux urgences.
Elle veut vraiment venir vous voir.
Le chiffre de la fièvre n'est pas un signe de gravité.
Alors, au bout de combien de temps
Déjà, la première chose à faire pour soulager de la fièvre, comme vous le feriez, c'est de prendre un Doliprane ou n'importe quelle chose en paracétamol pour essayer de soulager. Ça fait effet en 30-40 minutes. Et après, on peut juger.
Mais alors ça, c'est valable pour les enfants de plus de 3 mois, on est bien d'accord.
C'est valable pour les enfants de plus de 3 mois, parce que les enfants de moins de 3 mois, et notamment ceux moins de 6 semaines, vont faire de façon plus fréquente des infections bactériennes, qui peuvent être graves, notamment la méningite. Et du coup, il n'y a pas à tergiverser.
Là,
il fait de la fièvre depuis une heure. Et là, vous pouvez venir, on vous recevra.
D'accord.
Quelle est l'ambiance d'ailleurs en ce moment ? Parlons-en, vous travaillez donc dans un service d'urgence pédiatrique. Bien sûr, le Covid est toujours là, mais il n'y a pas que ça. Ça y est, les autres virus sont de retour. Comment ça se passe en ce moment ?
Ah bah, c'est joyeux. On est tous très contents du retour de la rhinopharyngite, de l'angine, de l'otite, de la gastroentérite. On adore ça. Après, c'est très éprouvant en vrai parce qu'on a une énorme vague qui se profile à l'horizon. On est qu'en septembre et on a déjà des unités pleines.
Ah oui.
Et il va falloir être très prudent et rappeler aux parents de ne pas baisser tout d'un coup tous les gestes barrières.
Vous avez cette sensation-là, vu la masse déjà de patients aux urgences pédiatriques ?
C'est plus qu'une sensation, c'est une constatation en fait. On a vraiment un énorme nombre de personnes qui viennent maintenant pour les épidémies saisonnières, les épidémies traditionnelles.
Alors évidemment, ce que tous les parents redoutent en cas de forte fièvre, j'y retourne, c'est que l'enfant convulse. Alors vous, les convulsions, pareil, vous dédramatisez, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut faire quand notre enfant convulse, comment il faut se comporter à la maison ?
C'est assez simple. Hein. En fait, quand votre enfant convulse, vous le mettez sur le côté, en PLS, comme il dit, en position latérale de sécurité. Vous regardez votre montre, ou une pendule ou ce que vous voulez pour voir à peu près quand ça débute, pour pouvoir donner une idée du temps que ça a duré au médecin que vous allez rencontrer après. Et puis après, vous décrochez votre téléphone, vous appelez 15 et ils vont vous orienter, envoyer des secours si besoin, enfin, surtout si la crise se met à durer, surtout si elle dure plus de 5 minutes. Mais vous, grosso modo, vous n'avez rien à faire.
Parce que c'est très effrayant, effectivement. Ouais. Si ça nous arrive, là, on en parle de façon peut-être un peu légère. Et les gens se disent, oh là là, moi, si mon enfant convulse, il n'y a pas question, je file aux urgences. Mais pour nous expliquer, justement, finalement, pourquoi un enfant va convulser, je crois que vous mettez votre costume d'électricien. Expliquez-nous ce qui se passe dans le cerveau de nos petits quand ça arrive.
C'est très simple, en fait. La convulsion, en gros, c'est une forme de protection pour le système neuronal, pour le cerveau de votre enfant. Et le fait d'avoir ces convulsions, ça va traduire que le cerveau se met en off pour le protéger.
Donc, comme disjoncteur, quoi.
Comme un disjoncteur.
Vous êtes un peu électricienne, vous aussi, Julien.
Oui, hein, hein.
Et vous allez, en fait, avoir la sensation, par contre, que votre enfant est en train de mourir. En fait. Mais c'est une sensation totalement différente de ce qui se passe. Après, bien sûr, les convulsions, dans la grande majorité des cas, méritent quand même un passage aux urgences pour qu'on puisse voir l'après, faire notre technicien et vérifier les circuits.
Juste une dernière question, face à des convulsions, on ne met rien dans la bouche de l'enfant parce qu'on imagine qu'il va avaler sa langue, tout ça. Alors...
Non, pitché, ça n'existe pas. On n'avale pas sa langue. En fait, si on le met sur le côté, c'est parce que si jamais il vomit, il pourrait inhaler. Et ça, c'est une chose qui peut être très grave. Mais pitché, pas de cuillère, pas de spatule, pas de ce que vous voulez à l'intérieur de la bouche, et pas en plastique en plus.
On n'est pas Toubib comme vous d'ailleurs. Toubib, on ne vous lâche pas encore, on va continuer dans quelques minutes à dédramatiser ensemble ces urgences médicales chez nos enfants. Urgences qui, on l'a vu, peuvent nous faire paniquer parfois. Alors justement, quels sont les symptômes qu'on peut gérer seul? Quels sont ceux au contraire qui devraient nous conduire directement aux urgences ou nous faire consulter? Pas de panique, on vous explique la marche à suivre sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on vous accompagne dans tous les sujets de votre vie quotidienne. Et ce matin, dans notre dossier santé, on vous évite surtout de finir aux urgences avec vos enfants pour rien. Notre guide sur ce sujet, c'est Toubib. C'est un pseudo, mais vous êtes vraiment médecin. Vous travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier et vous avez publié Urgence, hors note urgence chez First. Alors on va passer à présent à un autre problème fréquent chez les enfants. Tout d'un coup, il y a des boutons partout. Alors, en réalité, il n'y a presque jamais besoin de consulter en urgence pour ça. Mais expliquez-nous exactement dans quel cas ou pas on va aux urgences.
C'est assez simple, en fait. Les boutons, il suffit d'appuyer dessus.
Ah.
C'est toujours pareil, hein, même chez les enfants, c'est pareil. Donc, en fait, vous appuyez dessus et vous voyez si ça reste blanc sous votre doigt. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Si ça reste rouge, voire rouge vif, dans ce cas-là, il faut consulter. Et si vous n'y arrivez pas avec le doigt, comme vous le disiez tout à l'heure, on utilise un verre.
C'est-à-dire, c'est un jeu à boire, ça ? Non,
ça pourrait être un jeu à boire, mais aux urgences pédiatriques, on évite la boisson.
Bien sûr.
Donc, le principe ici, c'est de prendre donc un verre avec un fond transparent, bien sûr, et de l'appuyer sur les taches que l'on voit au niveau de la peau. Et en appuyant un petit peu, on va voir à travers le fond du verre si, justement, comme on disait tout à l'heure, ça devient blanc ou si ça reste rouge. Si ça devient blanc, c'est rassurant. Si ça reste rouge, avec ou sans fièvre, il faut consulter.
Bien, alors bien sûr, il y a toujours des exceptions à toute situation. S'il y a des boutons et d'autres symptômes, en revanche, je crois qu'il faut consulter. Expliquez-nous lesquels.
S'il y a des boutons et d'autres symptômes, c'est-à-dire
et la fièvre ou autre chose, un état général qui serait pas correct.
Après, comme je vais vous dire, c'est en fait le test du verre résout tout.
Parce que
fait,
je
par
dis boutons, mais je pense aussi plaques. Les parents ont très peur, notamment de la méningite. Mm-hmm. Qu'est-ce qui doit faire penser éventuellement que c'est ça?
On est toujours pareil. La méningite, en fait, ça va être ce qu'on appelle la peau un purpura fulminans, et donc ça va pas s'effacer à la vitropression, donc
avec
à la pression
verre,
au niveau
marche,
du verre.
Ouais.
Alors après, en autre symptôme où il n'y aura pas de fièvre, on peut citer le fait d'avoir des grandes plaques d'urticaire. Donc c'est comme si vous aviez été frappé par des orties et l'enfant va avoir du mal à respirer, va avoir des douleurs dans le ventre intenses ou il va avoir du mal à avaler. Dans ce cas-là, c'est le 15 directement parce que ça peut être une réaction allergique, tout simplement.
D'accord. Alors on va passer à un autre problème de santé très fréquent. Mon petit a des vomissements. Alors là aussi, pas besoin de filer aux urgences directes, ça j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous conseillez pour bien gérer ça déjà à la maison ?
de prendre un seau et des vêtements de rechange en premier. Je pense que c'est bien pour tous les parents. Après, en fait, ce qu'il faut toujours savoir...
De mettre du plastique aussi sur le parquet. Moi, j'ai une bâche comme
pas
ça.
De plastique, alors, ouais,
on a, non, mais dit pas
là...
de plastique.
Oui, mais
hein,
j'ai une bâche
que,
parce que là, voilà. Le parquet avec le vomi, c'est
donc,
pas possible.
Donc, il faudra laver, ouais, et la réutiliser après.
C'est ça, exactement.
Non, plus sérieusement, les vomissements, en fait, chez les parents, il faut que vous compreniez une chose, c'est que c'est un phénomène de sucre, et de bon sucre et de mauvais sucre. Le mauvais sucre, ça s'appelle l'acétone. Et plus on a l'acétone dans le sang, à force de vomir, et plus on va avoir envie de vomir. C'est un cercle vicieux. Donc si vous voulez arriver à faire arrêter votre enfant de vomir, c'est pas des médicaments qu'il faut lui donner. C'est du sucre en petite quantité, petit à petit.
Ma maman nous donnait du cola à l'époque, oui, mais c'est
alors
pas
ça,
bien,
c'est un...
non
c'est... Oui, ouais. Non, c'est un faux ami parce que ça n'hydrate pas aussi bien. Mais bon,
vous préférez quoi alors? Un jus de fruits,
jus de pomme, jus de fruits en général doux, qui sont non gazeux, ou des compotes de fruits que vous pouvez même mettre avec un peu de sucre à l'intérieur et que vous donnez de façon très très lente pour pouvoir resucrer l'enfant lentement et arrêter les vomissements.
Alors quelque chose qui arrive très très souvent, mais alors très souvent, les enfants ont mal au ventre et donc nous parents, on redoute, bon, qu'il n'ait pas envie d'aller à l'école, ça c'est possible, mais qu'il ait l'appendicite. Comment savoir ou alors éliminer justement cet éventuel diagnostic?
Ça, c'est un des diagnostics les plus difficiles en médecine, l'appendicite, surtout chez l'enfant. Pour être très clair, l'appendicite, moi, ce que je... Dans
difficile
la pratique,
pour vous, mais alors pour nous, encore pire. Il a mal de quel côté,
pratique,
par exemple?
Je pense que ce qu'il faut se concentrer, c'est sur un seul truc. C'est que la douleur, une fois que l'appendice est enflammé, il va évoluer vers la péritonite. Donc, ça va être une douleur qui va être constante. Le plus souvent, 90%, je pense, elle est à droite, en bas à droite, comme on le sait tous. Mais elle va être constante, cette douleur, elle va ne faire qu'augmenter. Alors que d'autres douleurs, ça va faire le yo-yo, en fait. Il va avoir des crises, ça va faire douleur, puis après, moins de douleur, plus de douleur,
oui, etc. L'appendicite, non, ça dure, quoi. S'il a mal, il a mal tout le temps.
Et ça augmente, ouais. Et c'est constant, jusqu'à ce que l'enfant ne puisse même plus plier la jambe.
Oh là là.
Donc ça, c'est un bon indicateur.
Ah, on peut leur faire plier la jambe, effectivement.
Voilà,
donc,
voir s'ils ont besoin de laisser la jambe dans une seule position et qu'ils ne peuvent pas la plier ou les tendre. Dans
là,
ce cas-là, il faut consulter.
Signe. Surtout si c'est côté droit, on a bien entendu.
Côté droit.
Alors, on va prendre un autre pépin de santé qui peut arriver un jour à notre enfant. Il se fait piquer par un insecte. Et là, pareil, ça ne sert à rien d'aller aux urgences pour savoir quelle bestiole l'a piqué. Ça, c'est vous qui le dites, en tout cas. Alors, dites-moi pourquoi.
Bah, tout simplement parce qu'on n'est pas entomologiste. Enfin, sauf peut-être une de mes collègues qui adore essayer de deviner quelle piqûre correspond à quel insecte. Je ne suis pas certain qu'elle ait 100% de réussite. Mais on n'arrive pas à deviner comme ça. Donc, venir vous demander à nous... alors, est-ce que c'est une araignée? Est-ce que c'est un moustique? Je n'en sais rien.
Vous allez dire, j'en sais rien.
Alors,
voilà.
On fait quoi? On reste avec sa piqûre et avec son enfant?
On reste avec sa piqûre, sauf si la plaque rouge qui a autour, en fait, qui va... Il y a toujours une plaque rouge, hein, ça gonfle toujours, il y a toujours une plaque rouge. On a tous eu des bisons de moustiques, on le sait. Mais si cette plaque, elle s'étend de façon très importante, qu'elle devient chaude ou qu'il y a de la fièvre, en ce cas-là, il faut consulter un médecin.
Bon, les moustiques, quand même, on ne vient pas vous voir pour des piqûres de moustiques.
On vient tout le temps me voir.
Sérieux?
Pour des piqûres de moustiques.
Aux urgences?
Mais
c'est
souvent parce que les gens sont impressionnés par la réaction parfois locale, qui donne un gros œdème, qui donne des choses assez impressionnantes. Mais en général.
Et si c'est une araignée, c'est plus grave. Parce que parfois on dit oh là là, mon Dieu, c'est peut-être une araignée, mais au fond, les araignées, en tout cas en France, a priori,
oui,
métropolitaine.
France, voilà, c'est comme les moustiques. Ouais. Hein, les moustiques tigres, ici, ce n'est pas très, très,
on
pas très
pas.
Courant. Mais pareil pour les araignées. Les tiques, c'est une autre histoire,
ouais,
mais
on en a
c'est
parlé
une autre
ici.
Un autre type d'éruption qui doit alerter.
C'est l'érythème migrant, voilà.
En cible. Donc là, il faudra consulter.
Alors ça y est, c'est l'automne et ça rime toujours avec l'arrivée des virus. On en parlait tout à l'heure. Et je parle en dehors du Covid, évidemment, de la bronchiolite, par exemple. C'est viral et ça touche tous les petits bébés. Dans quelle situation faut-il vraiment les amener à l'hôpital?
Alors, la bronchiolite, vous faites bien d'en parler parce que c'est quand même le sujet, je pense, qui va être très important cet hiver pour les parents, encore plus que le Covid.
Ça a démarré là en début octobre.
Parce que
oui.
Justement, on constate justement la réascension du VRS. C'est le virus qui cause la bronchiolite de façon majoritaire. Et la bronchiolite va donner, surtout chez les plus petits, une insuffisance respiratoire. Et c'est très grave. Ça peut être très grave, ça peut mener au décès de l'enfant. Ce qu'il faut savoir sur
alors,
la bronchiolite...
Alors, pour éviter ça, parce qu'on est dans une émission positive, on fait... Voilà, à partir de quand on
c'est
consulte,
pour ça que j'enchaînais sur... Pour éviter ça,
voilà,
parce
alors,
qu'on va essayer de les garder
c'est
en
ça,
vie, quand
bien
même.
Sûr, évidemment.
Ça nous sera quand même plus utile. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est regarder la respiration de son enfant. S'il lutte, s'il tire, s'il creuse sous les côtes, dans ce cas-là, il faut consulter, surtout si la respiration elle est accélérée. Si l'enfant il n'arrive pas à manger parce qu'il est trop préoccupé par sa respiration, dans ce cas-là, s'il prend moins de 50% de ce qu'il prend d'habitude sur la journée, il faut consulter. Et on revient à ce qu'on avait dit au début, si son comportement est totalement amorphe, c'est-à-dire qu'il est en train de s'épuiser à force de respirer, il faut consulter. Comme quoi, tout revient toujours aussi au comportement.
Très bien. Sur la bronchiolite, dans votre bouquin, vous insistez aussi sur le fait que les parents ne doivent pas s'affoler s'ils ressortent de chez le pédiatre ou le médecin pour la bronchiolite, justement, sans ordonnance pour de la kiné respiratoire. Pourquoi ?
Ah là là, sujet polémique.
Vous allez vous faire des amis, allez-y. Finir.
Alors, en fait, la kinésithérapie n'a pas prouvé d'amélioration de la mortalité, de la durée des symptômes en hospitalier. Alors, il y a toujours des études qui sont en cours sur l'efficacité justement des séances de kinésithérapie en ville, mais de prime abord, ce n'est pas le traitement de la bronchiolite. Ça va pouvoir permettre de désengorger l'enfant de façon très très transitoire.
Pour l'avoir vécu, franchement, il était mieux après une séance de kiné respiratoire,
mais
mon enfant.
Ultimement, si vous amenez votre enfant aux urgences parce que votre enfant va mal pour une bronchiolite, on n'appelle pas le kinésithérapeute,
oui,
on met de l'oxygène. L'oxygène est le seul traitement de la bronchiolite. Après, je ne suis pas forcément opposé aux gens qui veulent de la kinésithérapie en ville, surtout si ça leur permet une meilleure surveillance et d'être suivi par un professionnel qui va pouvoir les alerter là-dessus.
Alors très rapidement, il y a les classiques de l'hiver, la rhino, l'angine. Alors, on va insister là-dessus, mais vous dites non, je ne donnerai pas d'antibiotiques. Mais franchement, même s'il y a 4 jours de fièvre ?
Même s'il y a 4 jours de fièvre, les critères pour les antibiotiques, ce n'est pas la durée de jours de fièvre. Il y a des critères très précis qui seraient beaucoup trop longs juste pour cette seule émission. Mais ce n'est pas parce que vous avez plus de 4 jours de fièvre qu'il faut vous en inquiéter. Par contre, s'il y a plus de 5 jours de fièvre, il faut au moins consulter un médecin pour savoir s'il y a des examens à faire.
4, mais 5, tout change. Hein. Un petit mot, parce que là aussi, cette saison, et on va tous y passer par là quand on a des enfants, le sirop anti-toussif, on s'en fout, vous dites, on s'en cogne.
On s'en fout totalement. C'est un placebo. Hein. Je suis désolé de casser vos rêves.
Du lait avec du miel chaud, enfin du lait chaud avec du miel. Soir, moi, je donne ça marche très bien, je trouve.
Voilà, et le miel après un an. Hein, oui. Attention au risque de botulisme. Mais en tout cas, le sirop contre la toux, c'est un total placebo. Les remèdes de grand-mère, pour ce cas-là,
fonctionne
ça marche
mieux.
Très bien.
Allez, très bien, en tout cas pour les enfants. Merci beaucoup, Toubib, de nous avoir aidé ce matin à mieux identifier chez nous ce qui relève vraiment d'une urgence ou pas avec nos enfants. Et puis pour ceux qui voudraient se procurer ce guide de survie très bien fait, je rappelle votre livre « Urgence hors notre urgence » aux éditions First. Merci encore, docteur.
Oui, merci, docteur. Bon, Mélanie, il est temps de passer à notre séquence tendance avec nos chroniqueurs. On va démarrer par la chronique gastronomie avec Marion Sauveur et les coquilles Saint-Jacques. Elle nous donnera ses meilleurs conseils pour les cuisines et chez nous. Et puis Elsa Lévy va nous décrypter ce qu'est le co-living, une nouvelle façon de vivre la colocation. Et enfin, Sophie Braffman, la madame mode de Bienfait pour vous, nous propose aujourd'hui un coup de projecteur sur ces jeunes marques très tendances, mais aussi très engagées.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi. On débutera évidemment avec le déluge dans les Bouches-du-Rhône. Les écoles sont fermées, les parents ont dû récupérer leurs enfants, tout comme dans le Var. On sera en direct dès le début d'Europe Midi avec la sous-préfète des Bouches-du-Rhône pour toutes les consignes de sécurité. On sera en direct du Vieux-Port avec Stéphane Burgat. Le niveau de l'eau dans le Vieux-Port est quasiment au niveau du quai. On sera également avec Frédéric Michel depuis le Var, et puis on sera avec Anissa Haddadi, notre spécialiste météo. On verra comment on en est arrivé là. Anissa qui nous dira également ce qui nous attend dans les heures qui viennent. Notez que le maire de Marseille redoute un épisode orageux sans précédent cet après-midi. Un rendez-vous judiciaire capital à partir d'aujourd'hui à Londres pour les familles des victimes du naufrage du Bugel et de Braise. Le chalutier, tiré par le fond, le naufrage avait fait 5 morts en 2004. La thèse du sous-marin britannique qui aurait accroché le chalut va être enfin sérieusement étudiée. Emmanuel Macron en visite dans un centre de la SPA en Haute-Saône. Les candidats à la présidentielle vont se battre pour tenter d'attirer les amoureux des animaux. Marseille se prépare pour l'hommage à Bernard Tapie. Ce sera jeudi, la chapelle ardente qui sera installée dans le stade Vélodrome. Qu'est-ce qui est prévu exactement ? Nos informations avec Jean-François Pérez. Voilà pour le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure, midi et demi.
Merci beaucoup Romain, rendez-vous à midi et demi.
Retour dans Bienfait pour vous avec Cyclamed, qui collecte en pharmacie vos médicaments non utilisés ou périmés.
Europe 1,
11h, midi 30,
Bienfait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et nous sommes ravis avec Julia Vignali de vous prendre la main tous les jours vers une vie quotidienne plus cool, plus simple. Et donc, dans la demi-heure qui va suivre, on va mettre en lumière nos tendances, ces bons plans ou même ces aliments de saison qu'on vous fait découvrir ou redécouvrir.
Et oui Mélanie, et justement, puisque vous parlez de bonne chère, on va ouvrir ce tour de table des tendances en chouchoutant nos papilles avec Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui, focus sur la coquille à Saint-Jacques, c'est bien ça ?
Et oui, puisque c'est pile poil aujourd'hui le début de la saison. Les pêcheurs sont en train de la pêcher en ce moment même.
J'adore, c'est ça, génial. C'est super.
Miam, miam, miam. On a déjà l'eau à la bouche, Marion. Ensuite, ce sera au tour d'Elsa Lévy. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez de découvrir le co-living. C'est quoi ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est de la colocation, ça on connaît.
Ben c'est ça, c'est un peu de la colocation, un peu de travail, un peu de bon temps. On va voir comment on peut
mixer tout ça.
Voilà, mixer tout ça, très bien.
Et puis enfin, la partie tendance de l'émission se terminera par le coup de projecteur de Sophie Braffman, notre spécialiste mode. Sophie, bonjour.
Alors, bonjour.
Vous allez mettre la lumière sur qui ou sur quoi ?
Ben, déjà, on est quatre housses dans cette salle. Je me dis qu'il y en a trois de trop. Voilà, donc ça c'est mon premier sujet. On va continuer sur la Fashion Week, un univers agréable, sympathique, mais engagé aussi.
Et parfois impitoyable. Merci Sophie. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, il est l'heure de passer à la dégustation dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Allez, on démarre donc la séquence tendance de cette émission. Il est midi et vous avez peut-être, comme Julia Vignali, le ventre qui commence à crier famine. Ça tombe bien parce que Marion Sauveur va nous régaler, je pense, comme à son habitude. Alors Marion, on va se faire du bien avec une noix que l'on récolte sous l'eau.
Et oui, c'est la noix de Saint-Jacques cachée dans sa coquille rouge rosée, plate d'un côté et bombée de l'autre. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle coquille Saint-Jacques ?
Non, pas du tout.
C'est son mari Jacques ?
Même pas. C'est un lien avec Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins. Il descendait jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et il ramassait en fait des coquilles sur la plage juste avant d'arriver et il les gardait autour du cou. Il mangeait même avec, il buvait avec tout simplement. Donc voilà, quand elle est arrivée sur les étals, eh ben, on avait cette image de la coquille Saint-Jacques. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est l'ouverture de la pêche professionnelle de la coquille Saint-Jacques.
Donc ça veut dire qu'il y a une saison pour en manger, hein ?
Et oui, puisqu'elle se reproduit l'été, les pêcheurs ne les pêchent pas de la mi-mai à début octobre pour donc préserver la ressource. La Normandie, c'est la région où il y a le plus de coquilles Saint-Jacques qui est pêchée chaque année en France. Les pêcheurs ont donc pris la mer à minuit cette nuit, pas avant surtout.
On est dans l'actu, hein, vraiment, c'est génial.
Mais oui. Comme Quentin Yonnet, il est le capitaine de l'Alter Ego, un bateau de moins de 12 mètres. Et avant son départ de Port-en-Bessin, donc on est en Normandie, il m'a raconté comment il fait pour pêcher cette coquille.
Elles sont enfouies un peu dans le sable, donc on la désenfouille du sable. Et donc on pêche ça avec des râteaux, ce qu'on appelle des dragues. On traîne ça dans le fond et ça racle 2-3 cm du fond. Et il y a forcément un peu de sable, de cailloux. Le mieux, c'est d'avoir que des coquilles dedans, mais bon, ça reste encore relativement rare. Puis donc après, on trie ça sur le pont, on les met en bac. On verra combien de temps sera nécessaire de pêche pour faire le quota. Ensuite, on fait roue de porc, comme on dit, pour la vendre sous la criée, quoi.
Et les premières coquilles Saint-Jacques vont donc arriver cet après-midi dans les ports de Normandie. En Bretagne, elles ont déjà été débarquées puisque c'est un petit peu plus proche et on les retrouvera dès demain sur les étals des poissonniers. Est-ce que vous connaissez la différence entre les coquilles Saint-Jacques bretonnes et normandes ?
Mais alors non, moi je ne connais que les normandes en fait, je n'ai goûté que des normandes.
Mais
je
moi
crois.
Aussi. Ah, il y a la baie de Saint-Brieuc en Bretagne, il faut goûter.
Alors, c'est l'orange, hein, c'est
voilà.
Ça.
Voilà, l'orange, c'est le corail, cette petite langue orange qui est accrochée à la noix. Et ben en fait, c'est.
Mais je vous laisserai parce que moi je déteste le corail.
C'est vrai.
Donc, je vous laisse le corail. Je mange la noix.
Eh ben, je vous donne la noix.
Quand
okay.
vous allez savoir ce que c'est le corail, ça, vous allez moins rigoler. Hein.
C'est l'appareil reproducteur.
Mais
de la coquille.
Je sais, et j'ai aucun problème avec ça.
et du coup, en Normandie, elles se reproduisent un peu plus vite qu'en Bretagne.
Bon, comment on fait pour les choisir, les coquilles ?
Alors, les vraies coquilles Saint-Jacques, on les retrouve grâce à leur nom latin, Pecten Maximus. Ça évite de les confondre avec les pétoncles.
Ouais.
Et puis, il faut surtout qu'elles soient vivantes. Donc, pour le vérifier, vous vérifiez que les coquilles sont bien fermées. Sinon, vous tapotez dessus tout doucement, pas trop fort, hein. Et puis elles vont se refermer toutes
d'accord,
seules.
D'accord, bon, ça suffit, on passe aux choses sérieuses. À table.
Mais oui, alors les coquilles Saint-Jacques, on les aime délicieusement poêlées, tout simplement. Mais c'est pas toujours facile de réussir la cuisson. Alors j'ai demandé sa technique à Christophe Saint-Agne, qui est chef du restaurant Le Papillon à Paris. Il est parrain cette année de la Grande Débarque. C'est la fête pour l'arrivée de la coquille Saint-Jacques normande. Ça se passe partout en France jusqu'à la fin de l'année. Et voici donc les conseils du chef pour les poêler.
Je dirais que le mieux,
ce serait de la passer un petit peu à la farine, de façon à ce qu'on la sèche bien à l'extérieur, de faire chauffer une poêle avec un petit peu d'huile et de la colorer sur les deux faces pendant, je dirais, une minute de chaque côté, avec un petit peu de beurre. Si votre coquille Saint-Jacques commence à cracher de l'eau et tout ça, alors ça veut dire que vous l'avez trop cuite et que du coup vous la séchez. Si vous voulez garder la bonne texture de la noix, il faut vraiment aller doucement, doucement dans la cuisson.
Et du coup, on a des Saint-Jacques qui sont bien dorés, qui sont nacrés à l'intérieur, c'est le plus important. Avec une petite fondue de poireaux, une petite fondue d'oignon, ça c'est parfait.
Moi, je mets des petites tranches de chorizo poêlé aussi.
Ah oui,
vous avez des petites astuces aussi. Alors bon, si on ne peut pas les cuire, vous n'avez pas une petite recette simple. Je sais que vous l'avez parce que j'ai déjà la petite verrine devant moi pour changer et épater les amis. Voilà. Là, vous nous épatez. Dites-nous ce qu'on a dans la verrine alors.
Un petit tartare, c'est tout simple à faire. Pas des coquilles fraîches, puisque je vous l'ai dit, les pêcheurs sont en train de pêcher, donc ce sont des surgelés pêchés artisanalement la semaine dernière. Merci Picard de m'avoir aidé. Alors, on commence par faire une vinaigrette avec un petit peu d'huile d'olive et des agrumes, jus d'agrumes, clémentine, citron vert. On découpe les noix de Saint-Jacques en quatre, on les arrose avec cette vinaigrette, on laisse au frais, comme ça, ça marine un petit peu. On sale, fleur de sel, un peu de poivre de Timut, c'est facile à trouver.
Vous avez vu en mettre juste avant, là, c'est délicieux ce poivre.
Ça va apporter un petit peu de saveur d'agrumes. Quelques graines de sésame qui sont torréfiées. On peut ajouter du gingembre, de la nette. On peut s'amuser. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve ça vraiment délicieux. Et en plus, je me dis que ça doit être bon pour la ligne, ça, non?
Mais oui, justement, les Saint-Jacques, c'est à peine 70 calories au 100 grammes. Et puis, elles sont pleines d'oméga 3 et de vitamine B. Donc, c'est bon.
C'est tout bénef. Hein.
Moi, je voudrais avoir quand même votre recette, Mélanie, avec
le
chorizo.
Moi, je la fais poêler simplement dans du beurre, dans une poêle. Je fais fondre du beurre, un petit peu de beurre. Je la fais snacker à peine. Hein, donc, elle est presque crue à l'intérieur.
C'est ça.
Un snack de chaque côté. Et je coupe un petit chorizo. Alors, vous le choisissez pimenté ou pas. C'est vous qui préférez. Et moi, je le passe juste à la poêle, sans graisse, sans matière grasse, sans rien du tout. Le chorizo, pareil, est un petit peu snacké. Je mets ça dans une assiette et c'est parfait.
Vous approuvez ?
Ah bah oui, le chorizo, les Saint-Jacques, ça
marche très 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 bien, c'est clair. Vous avez aimé Sophie Braffman ?
Alors j'ai trouvé ça délicieux et le fait que ce soit léger, je me dis c'est encore mieux.
Merci beaucoup. Merci Marion pour tous ces conseils. J'ai encore la coquille Saint-Jacques entre les dents, ouais. Je vais essayer d'avaler tout ça. Ces aliments qu'on connaît certes, hein, les coquilles Saint-Jacques, mais pour lesquels parfois on est à court d'imagination pour les cuisiner. Merci. La table des tendances de Bienfait pour vous revient très vite avec le co-living d'Elsa Lévy, une nouvelle forme de colocation qui vous permet d'être tout proche de votre travail. Elle va tout nous expliquer. Et puis Sophie Braffman va nous parler de ces nouvelles marques de vêtements qu'il faut absolument tester parce qu'elles sont certes très chouettes, mais aussi très engagées.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances est déjà bien lancé. On a fini nos petites verrines de Saint-Jacques, de Marion Sauveur d'ailleurs. J'espère que vous avez bien noté ces conseils pour les cuisiner chez vous. C'était tout simple, on va tous reproduire ça. On va donner la parole à présent à Elsa Lévy. Alors Elsa, vous allez nous parler du co-living. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, c'est une extension du co-working, puisqu'il s'agit de co-travailler et de vivre sous le même toit. C'est à la fois une colocation améliorée, un habitat participatif et un open space qui allie des espaces privés et partagés. En fait, c'est une sorte de mix entre la série Friends et The Office. Okay. Donc, pour comprendre son origine, on part aux États-Unis. À San Francisco, plus précisément, on est au début des années 2000. La Silicon Valley croule sous les billets verts. Les créateurs de start-up viennent y tenter leur chance. Et le co-living émerge doucement pour leur faciliter le quotidien. Mais là où le concept devient un véritable phénomène, c'est autour de 2008, après l'enchaînement successif de catastrophes économiques. Donc cette crise mondiale va contraindre de nombreuses entreprises à baisser le rideau et à déserter leurs locaux car elles ne peuvent plus assumer les loyers. C'est ainsi que tout un tas de bureaux se vident dans le pays et qu'en parallèle, les loyers pour se loger, eux, deviennent de plus en plus inabordables pour les jeunes entrepreneurs. Alors, l'idée de leur louer ces locaux pour qu'ils puissent y vivre et y travailler se popularise.
Donc, si je comprends bien, on crée des appartements dans des bureaux, c'est ça ?
Voilà. Alors, au départ, de nombreux bureaux sont alors réaménagés en espaces de vie et de travail. L'idée, c'est de réduire les coûts des nouveaux locataires puisque tous les frais sont partagés, mais aussi de leur offrir tout le confort dans un lieu propice aux synergies. Parce que les locataires disposent d'un espace privé. Alors, ça peut aller du studio au T3 ou plus en fonction des moyens de chacun. Et tout est clé en main. Hein. C'est un peu un Pierre et vacances,
avec du wifi et des imprimantes.
Et le patron qui habite sur le palier d'à côté.
C'est ça. Et c'est souvent toute charge comprise en plus, ménage inclus. Et dans les versions les plus haut de gamme, on peut bénéficier d'une salle de sport, d'une piscine, un pressing, roof terrace.
Ça, c'est sympa.
Voilà, donc la vie comme ça, c'est Friends, The Office dans les villas de Melrose Place. Mais l'ambiance y est très studieuse.
Bon, c'est vraiment destiné qu'à un public de jeunes actifs, ça ?
Avant la crise, oui, c'était essentiellement pour les jeunes freelance. Mais depuis le Covid, avec la digitalisation massive des emplois, le co-living s'est répandu mondialement et séduit toutes les catégories d'âge. Certains y voient une façon d'être moins isolé, mais il y a aussi des profils qui se trouvent dans un moment de vie un peu transitoire, donc comme un divorce ou une reconversion, au point où c'est devenu un nouveau marché très lucratif pour le secteur immobilier. Alors même si l'idée présente plein d'avantages, notamment sur le plan économique et social, la question des limites au travail se pose, sachant que le modèle américain en matière de congés payés et de respect de la vie perso n'est pas exactement un modèle, justement.
Oui, mais justement, moi, si je faisais ça, j'aurais tellement peur sur la délimitation de ma vie pro et de ma vie perso.
Ah, Mélanie vient de piquer dans son frigo, par exemple.
Non, mais c'est ça tout l'enjeu, en fait. Sinon, dans métro, boulot, dodo, on peut déjà rayer métro. Il n'y a même pas ce petit sas. L'intérêt du co-living, c'est lorsque ça reste un choix à court terme. Donc, on ne fonde pas une famille en co-living, pas pour le moment, en tout cas.
Multiples enfants, c'est pas possible.
Non, après, ça finit en secte.
Ils sont très nosob in job, je pense, les Américains, en plus. Donc, si ça vient de là.
Complètement.
Alors, j'aime pas.
Non. Mais si, parce que justement, il y a des outils pour remédier à ces éventuels pièges. Et justement, en réponse à cela, il y a Léa Coutaille qui a créé un concept qui allie co-living et bien-être. Ça s'appelle le Yogascope. On l'écoute.
C'est un nouveau format de bureau itinérant, un espace de productivité et de créativité qui favorise aussi l'épanouissement personnel grâce à la pratique du yoga et de la méditation quotidienne. On l'a pensé comme une réponse à la problématique de l'isolement et le développement du télétravail depuis la pandémie.
Voilà, ici, le but, c'est de profiter du co-living sans le subir, justement. L'organisme propose des séminaires avec l'intervention de professionnels et tous les profils sont les bienvenus.
Nos clients sont entrepreneurs, salariés, chefs d'entreprise, profession libérale. Que ce soit pour retrouver leur équipe et la souder lors d'un moment en pleine nature ou bien prendre du recul sur leur routine de travail réseautée, apprendre de nouvelles astuces pour développer leur efficacité, leur créativité, ils ont tous une bonne raison de venir passer un moment avec nous.
Et alors n'hésitez pas à aller sur son site coliving.yogascope.com pour y voir les différents séjours qu'elle propose et qui vont dans le sens du co-living idéal. Car lorsqu'il est bien maîtrisé, le co-living est une expérience édifiante qui s'inscrit dans une logique d'économie de partage au même titre que le covoiturage ou tous ces échanges de services entre particuliers. Parce qu'on met souvent la lumière sur les aspects négatifs et individualistes de notre société, alors que notre époque est aussi celle de toutes ces initiatives. Le co-living parvient à réunir des gens d'univers différents, à mutualiser leurs ressources et leurs besoins. Et dans sa substance, c'est peut-être aussi une opportunité de se réapproprier ce concept devenu un peu fantaisiste, voire utopique, à savoir le vivre ensemble.
Moi, si Marion Sauveur et ses coquilles Saint-Jacques, c'est ma voisine de co-living, je suis d'accord.
Allez, aussi, on est parti.
Moi, je ne sers à rien. Je vous ai toujours en co-living.
Si, le ménage.
Je sais faire le ménage, c'est vrai.
Mais c'est important de partager quand on cuisine, donc avec plaisir.
Bon, voilà, on va faire un co-living tous ensemble. On va tenter l'expérience grâce à vous, Elsa Lévy. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous, mais restez bien derrière votre micro parce que je suis sûre que le coup de projecteur mode de Sophie Braffman va vous intéresser. Sophie, de quoi on parle aujourd'hui?
Alors, on va parler de marques engagées, bien sûr. Tout d'abord, ce soir, il y a un grand show, il y a le défilé TAM, donc là, je vais y aller, comme ça, je vous ferai un petit compte-rendu
avec
jeudi.
Plaisir.
Et mardi soir, c'est l'hommage à Albert Elbaz, donc deux grands des temps forts de la Fashion Week. Mais il faut bien le dire, cette Fashion Week, c'est un tourbillon des strass, des paillettes, de l'excitation, mais aussi des engagements pour un monde meilleur. Un monde où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousse dans les rues à la place du chien dent. Non, ce n'est pas de moi, c'est des nuls, c'était un petit hommage pour ceux qui ont connu cette grande époque. Voilà, donc tout ça pour dire que les marques aujourd'hui sont de plus en plus engagées et cherchent vraiment à fabriquer mieux.
Et oui, Sophie, vous nous avez parlé déjà de créateurs qui recyclent les vêtements.
Alors, l'emblématique Marine Serre, elle, c'est vraiment la reine de l'upcycling. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, elle a défilé cette saison. L'idée avec cet upcycling, c'est de faire des vêtements à partir de vêtements existants ou alors des stocks dormants, des rouleaux, des tissus qu'on retrouve ou des vêtements de seconde main. Sa dernière collection était
90% éco-responsable, puisque 90% de matière recyclée ou régénérée. Cette collection printemps-été 2022, qui s'appelle Fichu pour Fichu. Ah, alors, bien. Dit comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse note d'espoir, mais en fait, ça va vous plaire, les filles, parce qu'on recycle aussi notre linge de maison, thé d'oreiller, drap, nappe.
Génial.
Et hop, Julia, Mélanie, un chiffon et puis un petit torchon sur la tête, et ça vous fait un chapeau. Donc, c'est magnifique.
Ça fait rêver, là,
on
tout
fait
suite.
Plein de choses. Alors, il y avait du patchwork, il y avait des couleurs vives, des imprimés foulards, de la combinaison ultra moulante. Alors, elle est assez éclectique aussi. On est dans une idée de ensemble, c'est tout, la nature, l'amour, mais un trench, un long trench en cuir noir. Porté avec des bottes qui font un peu de bruit, un berger allemand, ça peut faire peur.
C'est un peu agressif. Hein.
Ouais, ça peut rappeler des heures un peu sombres de l'histoire, mais aujourd'hui, la tendance est au berger australien et il est beaucoup plus cool celui-là. Oh, donc,
c'est
il n'aurait pas
beau.
Peur.
Alors, je crois que vous avez découvert, Sophie, une collaboration assez inédite.
Alors, Christelle Cochet, donc la marque Cochet, qui a collaboré avec Tinder, l'application Tinder. Ça
ah,
paraît
oui.
comme ça très étonnant. Eh bien, c'était une collection capsule avec 8 pièces gender fluide. Retenez bien ce nom, je l'emploie souvent. C'est à la fois pour hommes et pour femmes, avec en pièce phare une robe ultra fluide. Il faut dire qu'un tiers, donc dans les 18-25 ans de cette génération Z, dit ne pas se reconnaître dans les normes de genre mises en place par la société. Donc ça laisse un boulevard pour les créateurs de mode.
Puis c'est pratique dans la penderie. Hein.
Voilà,
monsieur,
c'est
madame, on met les mêmes fringues.
Vous
c'est
allez
bien.
Partager, vous ouais. allez voir Mélanie, vous allez piquer plein de fringues à votre mari et vous allez être surprise le jour où il va prendre les vôtres. Mais ça ne saurait tarder. Ensuite, on avait donc dans cette idée toujours de marque engagée, Victoire et Thomas qui ont défilé dans la plus vieille caserne de pompiers de Paris. Ça s'appelle La Caserne et c'est le temple de la mode durable. Alors là, on est sur des vêtements réversibles, par exemple. Donc, c'est intéressant en termes d'éco-responsabilité aussi. Hyper malin, du rose fluo, des franges, des longues capes, des escarpins en bijoutés. Donc, ça m'a plu. Il y avait une rousse au défilé, ça m'a
encore
plu
une
aussi.
Autre.
Oui, et voilà. Et des mannequins, pas toutes jeunes pour certaines, ça m'a plu
ça
aussi.
Ça vous a plu aussi.
Voilà,
oui.
J'ai bien aimé. Et alors, le casting était à l'image de la marque hein, aussi. Donc, dans le public, il y avait des gens, un monsieur totalement tatoué, hein, toute la tête entièrement tatouée. Ah, oui. Je me dis, les oreilles, ça doit faire vachement mal quand même. Et sinon, symbole du gender fluide, un homme ou une femme, on ne sait pas, avec un casque intégral en guise de masque, ça faisait vraiment le retour des Daft Punk. Enfin, c'était très, très chouette.
Bon, Sophie, donnez-nous votre coup de cœur de cette mode engagée.
Alors, mon coup de cœur, c'est Rabih Kairouz, qui est un immense couturier. 22 ans de mode totalement indémodable. Alors là, on est sur de la haute couture à proprement parler. C'est cher, évidemment, mais ce sont des très belles matières et totalement intemporelles, durables par définition. Il présentait samedi sa collection printemps-été dans son atelier parisien Boulevard Raspail, qui est un ancien théâtre, là où a été donnée la première d'En attendant Godot de Beckett. Alors, je lui ai demandé de définir sa collection.
Elle est sans artifice, elle est ce que j'ai envie que la femme porte maintenant. Elle n'est pas déguisée, elle est directe et elle n'est pas à la mode.
Pourquoi elle n'est pas à la mode ?
Je n'aime pas la mode, j'aime les vêtements, ce qui est une grande différence. Je n'aime pas les tendances qui disparaissent. Pourtant, j'aime la spontanéité et les moments, mais je n'aime pas ces dictats qui vont disparaître et qui... Et tout d'un coup, un vêtement sur lequel j'ai travaillé, sur lequel mon équipe a travaillé, va avoir une courte durée. J'aime les choses qui durent dans le temps, qui ont une intemporalité. Et c'est comme ça que je respecte mon métier et les gens qui le font.
Alors forcément, la mode se démode, le style jamais, disait Chanel sur un début de citation emprunté à Cocteau. Et alors là, typiquement, il y avait une veste absolument sublime qui se referme complètement sur... Vous pouvez mettre, ce qui est rare, les mains dans les poches du jean et ça ne se froisse pas. C'est comme une abaya, en fait. Et du coup, le vêtement reste magnifique. Donc, il y a une vraie prouesse technique, une réflexion sur les matières. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle justement de matières qui ne sont pas éco-responsables, et bien lui, il a un avis là-dessus, puisqu'il travaille toutes les matières, même le polyester. Écoutez.
Les matières, leur nom ne m'effraie pas. C'est les matières, c'est leur tombée qui est important et la façon dont ils sont faits. Donc, c'est-à-dire que je préfère un bon polyester qu'une mauvaise soie.
Des matières prêtes chez soi et choisies dans des lieux de production de qualité et travaillées sans obéir aux injonctions d'une époque, c'est peut-être ça finalement l'essence de la mode durable. C'est vrai que souvent on fustige certaines matières, mais en fait il faut réfléchir et connaître leur provenance.
Une petite cape en polyester qui se retourne en plus. Hein,
vous qui se retourne, voilà. Et peut-être même un polyester recyclé. Vous allez trouver des matières comme ça qui sont tout à fait étonnantes et qui n'ont pas forcément voyagé, qui vont être prêtes chez vous. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie.
Moi, ça m'a tout à fait tenté effectivement de réfléchir aussi avant de consommer la mode, hein, Mélanie. C'est vraiment une émission, écoutez, on aura réfléchi de bout en bout.
Et on aura commencé par le plastique et on aura fini par le plastique, d'une certaine façon en plus. Hein,
exactement.
On
mais un bon plastique.
Voilà.
La coquille de Saint-Jacques, on la met pas dans le plastique.
Oui, je m'inquiétais en fait, mais
non, c'est pas pour vous. On la met pas au micro-ondes, hein, sous plastique évidemment, non, et on met pas Elsa Lévy en plastique parce qu'on l'aime beaucoup également.
Non, on travaille, on vit avec elle maintenant. On vit tout ensemble.
C'est voilà. Exactement. C'est pas dans le plastique, ouais. C'est intérieur en bois.
On est en co-living. Mais merci beaucoup, Sophie. Merci à toutes les trois pour ce tour de table des tendances particulièrement riches en goût et en couleurs ce lundi. Eh bien, ça y est, bien fait pour vous, touche à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, avec Mélanie, nous serons de retour demain dès 11h. Et on a déjà hâte, car le programme de demain s'annonce bien, je crois, Mélanie.
Oui, Julia, demain, on démarrera l'émission avec cette question très concernante. Peut-on, homme et femme, réussir sa carrière et sa vie de famille? Car c'est vrai que conjuguer amour, travail et enfant, en faisant tout bien, évidemment, c'est notre rêve ultime. Mais soyons honnêtes, c'est rarement possible pour les deux conjoints. Et bien ici, on va tenter de vous donner le mode d'emploi pour tout réussir, mais ensemble, vraiment à deux.
Et puis, il y aura évidemment de nouveaux sujets tendances, de la santé, nos meilleurs bons plans d'ici là. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.